Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci d'être au rendez-vous de l'actualité économique sur Radio de la Paix. Economia de ce jour se penche sur la question du processus d'endettement de la Côte d'Ivoire et la polémique qui a cours en ce moment sur le statut PPTE ou non de la Côte d'Ivoire. Pour vous éclairer, nous sommes avec Faustin Onozon, économiste et expert en intelligence économique, et nous dira beaucoup de choses sur ces notions. Ça sera dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Mais bien avant, comme vous le savez, vous aurez la définition de certains termes que vous entendrez dans cette émission et vers la fin de ce numéro d'Economia. L'autre rendez-vous, c'est l'actualité boursière avec les tendances de la bourse, et c'est avec Kwao Brice. Voilà pour le sommaire.
Le lexique économique.
L'initiative PPTE.
L'initiative PPTE est une initiative qui vise à assister les pays pauvres très endettés du monde en rendant leur dette internationale soutenable. Ce programme fut lancé par l'action conjointe du Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale en 1996 pour maintenir la dette à un niveau gérable et soutenable pour les pays. Il a subi, il faut le savoir, une réforme en 1999 et on a désormais l'initiative PPTE renforcée. Et puis la réduction de la dette est normalement fonction des efforts dans la lutte contre la pauvreté des pays concernés. Pour qu'un pays soit éligible à l'initiative PPTE, il faut respecter 4 critères. D'abord, n'être éligible qu'à une assistance concessionnaire de la part du FMI et de la Banque mondiale. Ensuite, faire face à un niveau d'endettement insoutenable. Avoir parfaitement mis en œuvre des réformes et des saines politiques économiques dans le cadre du programme soutenu par le FMI et la Banque mondiale, et enfin avoir formulé un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté.
L'endettement.
L'endettement désigne le fait de contracter une ou plusieurs dettes, c'est-à-dire un montant que l'on emprunte à une personne ou à un établissement, ça peut être une banque, un établissement de crédit, et que l'on est tenu de rembourser.
Le déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire est la situation dans laquelle les recettes de l'État hors remboursement d'emprunt sont inférieures à ses dépenses au cours d'une année. C'est donc un solde qui est négatif. Le déficit budgétaire se traduit généralement par des emprunts nouveaux que l'État doit contracter en cours de l'année. Si l'État doit emprunter pour se procurer donc des liquidités nécessaires pour couvrir des emprunts antérieurs arrivés à échéance, on parle ici d'effet boule de neige.
Regard sur la gestion économique nationale.
Merci de suivre cet espace dédié à l'économie, l'information économique sur Radio de la Paix. Dans le cadre de Regard sur la gestion de l'économie, nous recevons M. Faustin Onozon qui nous éclaire justement sur les différents sujets. Nous allons nous intéresser à ce débat qui a cours. La Côte d'Ivoire est-elle classée parmi les pays PPTE, pauvres très endettés ou non? En tout cas, la question continue d'alimenter le débat. Nous sommes avec un spécialiste qui va nous éclairer un peu sur cette initiative qu'on appelle PPTE. Rappeler à quel moment la Côte d'Ivoire a bénéficié de cette aide. Est-ce que la situation actuelle au niveau financier nous replace dans ce statut-là? On aura des précisions. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
Alors, déjà, comment vous avez réagi, vous, économiste, par rapport à toute cette discussion?
Oui, merci, monsieur Koumé. Effectivement, en tant qu'économiste, avec toutes ces polémiques, il nous revient à nous de nous poser la question de savoir quelle est la vérité dans tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut certainement revenir sur certains points, notamment les déterminants de l'endettement extérieur des pays pauvres très endettés.
Alors justement, comme nous le faisons habituellement, nous allons aller en termes pédagogiques. Premier terme à expliquer, l'endettement c'est quoi?
En ce qui concerne l'angle économique, j'allais même dire financier, un pays endetté est celui-là même qui a un déficit budgétaire insupportable, c'est-à-dire que l'endettement prend une part tellement importante dans ce déficit budgétaire qu'on n'arrive plus à assurer de manière un peu plus crédible tout ce qui est fonctionnement et investissement.
Quand vous parlez de déficit budgétaire, expliquez simplement c'est quoi un déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire, il faut comprendre par là, d'abord quand on dit budgétaire, c'est le budget de l'État. Mm-hmm. Et le budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Mm-hmm. Et le déficit budgétaire est la partie de ce budget-là que l'État ne peut pas assumer. C'est-à-dire que les dépenses sont largement supérieures aux recettes. Mm-hmm. Mais dans le cadre de la gestion d'un budget, on fait en sorte que cela aille de pair, que recettes égale dépenses, mais tout en sachant que la partie qui fait l'objet du déficit est plus élevée que les recettes. Et généralement, le déficit accepté, c'est 3%. Et
quand dans l'espace 8 mois.
8 mois. Mm-hmm. Et quand vous allez, même en France, un peu partout aussi. Mais quand vous allez au-delà de 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, là, je veux dire que le déficit, il est très, très, très prononcé. Mm-hmm. Et puis, même dans l'analyse même du budget de l'État, il y a un volet qui revient à la dette. Et si ce volet qui revient à la dette aussi, sinon, va jusqu'à près de 30, 40, 50% du budget, c'est-à-dire qu'il faut d'abord rembourser 50% du budget en termes de dettes, vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose pour tout ce qui est investissement et fonctionnement. Et de là où il ne reste plus grand-chose, cela veut dire tout simplement que c'est la croissance qui prendra ce coup-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous allez avoir une croissance qui va certainement commencer à battre de l'aile.
Alors en tout cas, concrètement, hein, pour ceux qui nous suivent, c'est comme vous, individu, vous avez un salaire, en tout cas une ressource, et puis, bon, votre ressource ne suffit pas, vous êtes amené à aller prendre crédit, comme on le dit communément, par exemple dans une banque. Alors, lorsque vous prenez crédit, à la fin du mois, on vous ponctionne d'abord le crédit, ce que vous devez, avec les intérêts. Et c'est ce qui reste que vous prenez pour votre quotidien.
Tout à fait.
Voilà. Donc, pour permettre aux auditeurs de mieux maîtriser ça. Mais pour le cas de l'État, hein, quand nous parlons de l'endettement extérieur, c'est cette politique qui consiste à aller prendre de l'argent hors du pays, c'est cela?
Oui. Et quand on met sur pied un budget, il y a un volet endettement. Mmh. Et ce volet endettement concerne très souvent les bons et obligations du trésor. C'est-à-dire qu'on va sur d'autres places financières pouvoir s'endetter. Il y a des endettements directs aussi qui vont de pays à pays. Le bon côté de cet endettement, c'est qu'il a un impact positif sur la bande des paiements extérieurs. C'est-à-dire, il est vrai que vous vous endettez, mais ça vous permet en même temps de garantir la valeur externe de votre monnaie. Mmh. Et cet endettement vous permet d'une manière ou d'une autre, de satisfaire une demande de monnaie qui est tout à fait croissante. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas mettre sur pied des billets de banque si ceux-ci n'ont pas une garantie extérieure tout à fait cohérente.
Mm-hmm. Alors, mais concrètement, hein, la question se pose hein, pour le citoyen, pour l'auditeur qui nous suit. Est-ce que s'endetter, c'est quelque chose de nécessaire? Là, parce que le débat, oui, la Côte d'Ivoire est endettée, surendettée, même on a entendu certains termes. Est-ce que le processus d'endettement, c'est un processus normal pour un État?
Pour la Côte d'Ivoire, on parle même d'un processus d'endettement modéré. Mm-hmm. C'est-à-dire que cela passe encore bien. Et l'endettement, c'est un processus qui est normal. Mais pourvu qu'on respecte les indicateurs.
Qui sont les indicateurs, on les rappelle un peu?
Bon, pour ce qui concerne nos pays, même tous les pays du monde, c'est la dette sur le PIB. Mm-hmm. Le PIB, c'est la richesse sur le plan national. Mm-hmm. Et cette dette sur le PIB ne doit pas aller au-delà des 70%. Mais ce n'est pas parce que ça ne doit pas aller au-delà des 70% qu'on doit approcher forcément les 70%. On doit faire en sorte qu'on soit même très très loin des 70%. Et on doit faire en sorte aussi que lorsqu'on s'endette, notre déficit budgétaire soit supportable. Voilà. Et puis, il faudrait qu'il n'y ait pas des accumulations, d'importantes accumulations d'arriérés des paiements. Et parce que cela va drainer un faible taux de croissance à la fin. Et puis, il faut voir aussi le contexte international. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des fluctuations des taux de change? Est-ce qu'il y a la baisse des prix des matières premières? Est-ce qu'il y a la détérioration des termes de l'échange? Est-ce qu'il y a des hauts des taux d'intérêt, des baisses des prêts assortis des conditions concessionnelles, tout ça? Et je crois que quand on veut faire une analyse objective, ce sont ces déterminants de l'endettement extérieur d'un pays, ou alors j'allais dire des PPTE, qu'il faut analyser.
Et les PPTE, vous avez dit.
Pays pauvres, très endettés.
Justement, nous allons nous intéresser à cet aspect de PPTE, mais j'aimerais qu'on reste toujours dans ce processus-là, qui est tout à fait normal hein, pour un État ou une personne, d'avoir de la ressource supplémentaire lorsqu'on n'en a pas au plan local, et on est amené, donc, à voir de quel côté on peut donc équilibrer son budget
pas l'emprunt. On a des partenaires au développement, on a des institutions financières internationales et qui nous aident constamment, Banque mondiale, FMI et d'autres, de manière bilatérale avec des pays amis. C'est un processus normal pour un pays d'avoir donc ce soutien-là, c'est cela.
Oui, quand on est à la tête d'un pays, il y a deux alternatives. La première, c'est développer une croissance. J'allais même dire d'une manière absolue. Parce que quand il n'y a pas de croissance, c'est qu'il n'y a pas d'économie conçue d'une manière tout à fait véritable. Et l'autre aspect, c'est la gestion de la balance des paiements extérieurs d'un pays. Mais tout cela va de pair avec l'endettement. Lorsque vous voulez avoir une croissance importante, une croissance crédible, vous devez vous endetter si vous n'avez pas les moyens nécessaires. Et cet endettement, l'élément déclencheur de la croissance, c'est bien entendu les investissements. Lorsque vous avez un niveau d'investissement élevé, cela aura une importance absolue aussi sur le plein emploi qu'on appelle la consommation. Et ces deux paramètres macroéconomiques vont entraîner aussi un lien très positif avec le sort du commerce extérieur qui lui aussi devrait logiquement s'augmenter. Et ce volet-là qui se développe permet à un pays d'avoir une croissance qui est tout à fait exceptionnelle. Maintenant, l'autre aspect, c'est la balance des paiements. Et il faut une balance des paiements viable. C'est-à-dire que vous devez avoir au niveau de votre balance des paiements un solde monétaire négatif. Cela vous permet d'avoir les devises nécessaires pour soutenir la valeur externe de votre monnaie. Et parce que lorsque vous avez un PIB qui est positif, cela va se dire que vous devez mettre sur pied une masse monétaire pour permettre à la population de consommer de la manière la plus cohérente qui soit. Mais cette masse monétaire-là, elle doit bénéficier d'une balance des paiements qui est aussi cohérente. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour pouvoir développer votre masse monétaire d'une manière cohérente, vous devez vous endetter avec le Fonds monétaire international.
On doit s'endetter, en tout cas, ce terme-là. Alors, est-ce que, pour terminer, il existe un pays dans ce monde, vous, qui êtes économiste, qui n'est pas endetté? On pose la question comme ça, tout de go.
Je pense que un pays dans le monde qui n'est pas endetté...
Je veux dire nos pays référents, généralement... les pays qui nous prêtent de l'argent et tout ça, on se dit, sont développés. Est-ce qu'il existe ces pays-là qui...
Ces pays, les pays qui nous prêtent de l'argent, des pays comme la France, comme...
les États-Unis.
Les pays européens ou autres, ce sont des pays qui sont endettés. Au niveau de la France, par exemple, le taux d'endettement va à plus de 100% du PIB. Bon, il en est de même pour certains pays européens. Et même les États-Unis, on nous dit que c'est le premier pays le plus endetté au monde parce que tout le monde se fait payer en dollars. Admettons qu'un jour, chacun demande aux Américains, voici vos dollars, donnez-nous ce que vous nous devez. D'ailleurs même, il n'y a plus de remboursement qui peut être fait en or. Ça a été mis de côté par les Américains. C'est pour dire que c'est un passage, à mon sens, qui est obligé. Mais ce n'est pas un passage où on doit être. Quand on vote un budget, c'est une dette qu'on met sur pied. Quand vous entendez déficit budgétaire, mais tous les États du monde passent par un déficit budgétaire. Mais les plus riches, à un moment donné, ce déficit il est largement épongé pour laisser place à un budget qui est totalement équilibré.
En tout cas, c'est là le défi, je vais essayer de réduire le plus possible le déficit. On retient en tout cas que l'endettement, c'est un processus normal. Vous avez présenté les aspects positifs donc de cet endettement. Nous allons, dans nos prochaines émissions, développer aussi les risques justement d'endettement, puisque vous avez lâché un mot, le PPTE, les pays pauvres très endettés. Voilà, à quel moment on est PPTE? On en parle dans le cadre, bien sûr, de cet espace Economia. C'était donc M. Fassion-Nozon, notre invité du jour. Merci.
Merci, M. Koumé.
La suite, c'est maintenant.
Tendance de la bourse.
Tendance de la bourse, rubrique consacrée à l'actualité boursière avec notre consultant, M. Kouaoubris, qui est encore avec nous aujourd'hui. Kouaoubris, bonjour.
Bonjour M. Koumé, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, avec vous, on parle de bourse, surtout de ce que les titres qu'on peut avoir en bourse nous rapportent comme argent. Alors, aujourd'hui, on va être un peu concret en disant à nos auditeurs, est-ce que les titres
actions, obligations, on en a parlé, peuvent nous donner de l'argent. Est-ce que avoir ces titres-là sont des sources de revenus?
Oui, je réponds oui. Les dividendes, les intérêts sont des revenus que vous pouvez capter en investissant en bourse. Maintenant, il faut préciser que ces revenus sont un peu différents de ceux à quoi vous attendez. Les gens sont payés par mois, donc ils raisonnent généralement par mois. Ils s'attendent à un revenu mensuel. La bourse ne peut pas vous donner des revenus mensuels, sauf si vous pratiquez la spéculation, qui est une forme d'investissement en bourse, mais investissement court terme.
On va s'arrêter sur ce point-là. La spéculation, en quoi cela consiste quand on a par exemple des titres?
Bon, sur les marchés financiers, il y a plusieurs postures, hein, mais il y a deux grandes familles d'intervenants. Il y a ceux qui vont acheter le titre en vue de le revendre dans le délai le plus rapide, en anticipant une variation du prix de l'actif. Donc, je dis actif parce que ça peut être une action, le coût d'une matière première, un indice. En fait, il y a plein de produits financiers. Donc, quelqu'un qui prend une position sur un titre en vue de le revendre le plus rapidement possible en anticipant une variation du prix est en train de faire de la spéculation. Donc, lui, ce n'est pas l'actif qui l'intéresse, ce n'est pas la qualité du bien, ce n'est pas ce que ça peut rapporter. C'est le fait d'avoir vu que dans 3 semaines, dans 1 mois, le titre, son prix peut progresser ou peut baisser. Ça lui donne de l'argent.
Il faut avoir une certaine lecture aussi hein, de ce paysage financier.
Voilà, c'est une connaissance de la psychologie du marché et l'outil qu'on utilise généralement, c'est l'analyse technique. Donc, c'est un genre d'analyse qui s'appuie sur l'étude des graphiques qui permet d'anticiper dans une certaine mesure le comportement des cours des titres. Donc, je vous dis actions, indices et tout ça. C'est à peu près la même philosophie. Donc, ceux-là, on les classe dans la catégorie des spéculateurs. Et eux, ils peuvent se dire, bon, je viens sur les marchés financiers, j'ai par exemple 2 millions, j'ai par exemple 5 millions de capital et je vais chercher à faire sur base de 5 millions, du 10%, juste ça, du 10% par mois. Donc, quand tu raisonnes comme ça, tu peux effectivement te dire, si je fais mes 10% par mois de 5 millions, ça me fait 500 000 francs chaque mois. Tu peux raisonner comme ça. Mais ce n'est pas de l'investissement en bourse au sens littéral. On appelle ça de la spéculation boursière. L'investissement en bourse, lui, il achète un actif dans le but de capter des revenus et de gagner dans la prise de valeur dans le temps. Donc, il peut accompagner une société pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, sans problème. Chaque année, tu reçois une partie des revenus de l'entreprise et ton titre prend de la valeur. Et l'action aura pris de la valeur progressivement pour atteindre 160 000 en décembre 2016. C'est ça l'investissement. Donc c'est un peu deux styles qu'il faut différencier. Quand tu es un investisseur, tu vas capter des revenus sur l'année. Quand tu es un spéculateur, tu peux capter des gains sur le mois, mais le niveau de risque est très différent. Et pour avoir des gains subséquents, le niveau de capital aussi est différent. 10% de 100 000, ça ne va rien changer dans votre vie. 10% de peut-être 10 millions, ça peut faire quelque chose.
Les auditeurs sûrement peuvent se poser la question, c'est vrai, avoir des titres, c'est intéressant, mais qu'est-ce que cela peut changer dans mon quotidien?
Après avoir balisé un peu les deux catégories, je vous dirais, moi je pratique l'investissement en bourse, je vous dirais honnêtement pour mes enfants, en termes de scolarité, d'études supérieures. Aujourd'hui, vous savez que si vous devez prendre votre salaire pour couvrir tous vos besoins et les besoins de vos enfants et leurs études supérieures, c'est pas très évident. Donc s'il existe une activité qui peut vous permettre de capter des revenus pour neutraliser cette partie-là, je pense que ça peut être intéressant. Surtout qu'il ne s'agit pas de revenus additionnels qu'on vous demande de chercher, il s'agit de votre épargne, la même épargne à laquelle vous pensez là, c'est d'elle il s'agit. Ça permet de capter en banque une certaine sécurité et en bourse une meilleure rentabilité. Donc nous avons dans l'école de la bourse des cas, j'en fais partie, de gens qui génèrent des dividendes suffisamment importants pour neutraliser toute scolarité d'enfant. Les témoignages sont disponibles sur le site de l'école de la bourse, rubrique cas pratique.
Voilà mes auditeurs, vous comprenez, hein, obtenir de la ressource additionnelle à vos revenus habituels. Vous êtes un salarié ou bien vous êtes un entrepreneur. La bourse est une occasion aussi à travers ces titres. Quand nous parlons de titres, hein, pour rafraîchir la mémoire, on parle d'obligations, on parle d'actions. Voilà, c'est une occasion aussi de couvrir les charges liées à votre statut de père ou de mère ou en tout cas de responsable de famille. Et voilà, c'est l'exemple donné. On a décidé d'attirer votre attention là-dessus pour vous faire comprendre que c'est une occasion d'investir, n'est-ce pas? Allez, avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver encore la semaine prochaine. C'est intéressant, hein, on en apprend beaucoup avec M. Kouaobris. M. Kouaobris, merci à vous.
Merci M. Koumé, merci à tous les autres de nous suivre. Et comme il a dit, rendez-vous sur nos plateformes, l'écoledelabourse.com ou sur Facebook, l'école de la bourse, groupe et page, pour retrouver les articles auxquels je faisais allusion, les témoignages de gens qui pratiquent ces activités et pourquoi pas, si ça vous intéresse, revenez vers nous pour avoir votre propre formation sur le sujet.
On va rappeler, ces sites, c'est tellement important pour nos auditeurs.
Donc, en termes de site, c'est l'écoledelabourse.com, c'est collé. Sur Facebook, c'est l'école de la bourse en tant que page, l'école de la bourse en tant que groupe. Donc, c'est la même identité visuelle que vous verrez, le même logo, l'école de la bourse. Et le mail aussi, c'est l'écoledelabourse@yahoo.com.
Voilà, la radio de la paix a décidé de vous aider à faire de meilleurs investissements. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.